Je vais maintenant vous présenter notre communicante d'aujourd'hui. Il s'agit de Sylvie Thénault. Sylvie Thénault est agrégée d'histoire et elle est directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique. J'espère ne pas me tromper au milieu de tout ce qu'elle fait en disant qu'elle est membre du Centre d'histoire sociale du XXe siècle. C'est vrai, elle opine. Elle coanime le domaine histoire des presses de Sciences Po et elle dirige la revue Matériaux pour l'histoire de notre temps. Elle s'est rapidement et notamment spécialisée dans les domaines de la violence coloniale et de la guerre d'indépendance algérienne. Sa maîtrise d'histoire en 1991 portait sur la manifestation des Algériens à Paris le 17 octobre 1961 et sa répression. Et sa thèse, soutenue en 1999, traitait de la justice dans la guerre d'Algérie. L'ouvrage présenté dans le cadre de son habilitation à diriger des recherches portait sur la violence ordinaire dans l'Algérie coloniale. Et on ne compte pas, il est exclu de les énumérer, les publications qu'elle a faites sur ces différentes questions. À titre personnel, j'ai eu la chance, un peu par hasard, de lire son ouvrage « Une drôle de justice, les magistrats dans la guerre d'Algérie », ouvrage publié en 2001. Passionnant. Et c'est cette lecture qui m'a incité à demander à Sylvie Thénault de nous parler aujourd'hui de ce sujet. Je l'en remercie beaucoup et je pense qu'il s'inscrit bien, comme j'ai déjà eu l'occasion de vous l'écrire et de vous le dire, dans la perspective de la communication que nous aurons dans 15 jours sur le syndicalisme judiciaire, aberration ou nécessité, avec en arrière-plan la politisation des juges. Est-ce que les juges n'ont jamais été politisés? C'est une des questions qu'on peut tout à fait accessoirement se poser. On a commencé à se la poser la semaine dernière. On va peut-être se la poser aujourd'hui, sachant que cette politisation peut parfois se faire malgré soi, malgré vous. Sylvie Thénault, vous avez la parole, vous vous installez comme vous le voulez. Si vous êtes fatiguée, au bout d'un moment, vous continuez en étant assise. Liberté, liberté chérie. À vous.
Bien. Je vous remercie beaucoup, cher Bruno Cotte. Merci beaucoup de m'avoir convié aujourd'hui. Merci aussi pour la présentation que vous venez de faire. Merci aussi pour les échanges que nous avons eus en amont, en préparation de cette séance. Alors, vous venez de le dire, cette question de la justice et des magistrats pendant la guerre d'Algérie, c'est une question qui dans mes recherches, est un petit peu ancienne, puisqu'il s'agit de ma thèse que j'ai, comme vous l'avez rappelé, soutenue en 1999 et publiée en 2001. Néanmoins, c'est avec grand plaisir que toujours je viens parler de ce sujet, et il est vrai que je suis tout particulièrement heureuse de voir que ce travail, qui est un travail d'histoire, connaît dans les milieux juridiques et judiciaires, je dirais, parmi les professionnels du droit, un très vif intérêt, et donc je suis ravie d'être ici. Sur ces questions, en fait, j'ai déjà plusieurs fois eu l'habitude d'intervenir aux côtés de Jean-Paul Jean ou après Jean-Paul Jean, que vous avez écouté, je crois, lors de la dernière séance, tant il est vrai que la période de la Seconde Guerre mondiale ou celle de la guerre d'Algérie pose une question identique pour les magistrats, qui est celle de leur rapport aux politiques, des circonstances exceptionnelles que les guerres du XXe siècle ont créées pour eux. Alors, il pourrait paraître tout à fait paradoxal de penser qu'il y a, dans un contexte de guerre, une intervention de la justice. Dans le contexte de la guerre en Algérie, donc je vous rappelle qu'elle s'est déroulée de 1954 à 1962, il y a deux faisceaux de raisons qui ont conduit à ce que les magistrats soient directement impliqués. D'une part, sur le plan politique, vous savez que l'Algérie était administrativement constituée de 3 départements et donc elle était considérée au sein de l'Empire français comme une partie intégrante du territoire national du fait de cette départementalisation Et donc les gouvernants qui sont aux prises avec le déclenchement de l'insurrection algérienne qui d'emblée est déclenchée pour l'indépendance veulent garder ce conflit en interne, le traiter comme une affaire interne et non pas comme une guerre. Ils refusent notamment les interventions des instances internationales, ce à quoi le Front de Libération Nationale répond au contraire en tentant de mobiliser l'ONU et y compris en développant un argumentaire juridique sur la potentielle applicabilité des conventions de Genève, etc. Alors, en tout cas, le fait que pour les gouvernements, et notamment le premier d'entre eux qui est confronté à cette insurrection algérienne, le gouvernement de Pierre Mendès-France, le fait qu'on soit en présence de trois départements algériens interdit d'accepter un encadrement du conflit qui est en train de se nouer par le droit international, et de là naît toute une législation d'exception dont la première loi est celle de l'état d'urgence. J'avoue que depuis les années 1990, malheureusement peut-être l'actualité m'a rendu un grand service, parce que dans les années 1990, lorsque je parlais de l'état d'urgence, personne ne savait ce que c'était. Aujourd'hui, depuis 2015, eh bien, même si la loi a évolué, les gens voient de quoi il s'agit. Donc l'état d'urgence est d'abord créé pour permettre à la fois une répression efficace des nationalistes algériens sans passer par un encadrement juridique qui serait potentiellement celui des conventions de Genève ou du droit de la guerre. Alors ça crée tout de suite des discussions assez paradoxales. Dans le gouvernement de Pierre Mendès-France, le ministre de l'Intérieur et vous le savez, François Mitterrand, et on a une discussion dans les projets d'état d'urgence pour savoir si, dans un objectif d'efficacité de la répression, il faudra admettre l'intervention des tribunaux militaires face aux nationalistes algériens ou si, au contraire, il faut garder les juridictions de droit commun. L'état d'urgence est voté sous le gouvernement d'Edgar Faure, mais le projet avait été en fait préparé par le gouvernement de Pierre Mendès-France, ce qui fait qu'à l'Assemblée nationale, quand il y a la discussion de l'état d'urgence, Maurice Bourgès-Monoury et François Mitterrand d'ailleurs se renvoient la balle sur la paternité du projet de loi. En tout cas, voici ce qu'écrivait François Mitterrand sur cette question de la possible intervention des tribunaux militaires pour juger les nationalistes algériens. Il écrivait cela dans une lettre au ministre de la Justice le 13 novembre 1954, donc une dizaine de jours après le 1er novembre qui est le début de la guerre. « Les hommes qui commettent ces attentats contre les personnes et les biens ne sauraient en aucun cas être considérés comme ayant un caractère militaire. » Donc il y a l'emblée l'idée que les nationalistes algériens ne sont pas des combattants, qu'il n'y a pas affaire à une armée, effectivement pas une armée régulière, et donc les nationalistes commettant des attentats, mais pas seulement, dans la suite du conflit, sont justiciables des tribunaux et in fine, contrairement à l'avis que François Mitterrand avait donné sur ce point, les tribunaux militaires seront appelés à assurer le jugement des actes qualifiés de crimes. Donc, première raison pour laquelle la justice intervient, c'est cet impératif politique du côté français conserver l'idée de la souveraineté française, de l'Algérie constituée de départements, et donc il n'est nullement question d'y faire intervenir une quelconque législation internationale ou convention internationale. Deuxièmement, cette question juridique ne suffirait pas. Il y a aussi une question liée aux formes du combat que conduit le FLN. Il y a certes les maquis où se battait la LN, l'Armée de Libération Nationale, mais par ailleurs, le FLN a déployé une lutte pour l'indépendance sur des terrains où l'armée était désemparée, si tant est qu'elle s'en tenait à des moyens du combat ordinaire. Évidemment, le FLN commet des attentats, donc il y a des réseaux qui sont organisés pour les commettre, mais il y a aussi des réseaux qui sont mobilisés et organisés pour soutenir les combattants des maquis, donc des réseaux de ravitaillement, d'hébergement, de soins, des réseaux de renseignement. Et puis, il y a aussi tout un travail de collecte de fonds, de caches de militants recherchés, de propagation de mots d'ordre et de slogans, et tout un encadrement aussi de la population algérienne qui se traduit par cette propagation de mots d'ordre et également, bien sûr, de répression des récalcitrants aux mots d'ordre. Alors, concrètement, ça veut dire que lorsque l'armée française est opposée en Algérie aux nationalistes, elle a d'un côté besoin de formes de combat classiques, si tant est que ce soit classique de combattre des maquis, mais enfin, disons, un terrain purement militaire, et puis il y a un autre terrain qui est celui du démantèlement de ces réseaux. Alors, ces réseaux, l'armée française les appelait l'OPA, l'organisation politico-administrative du FLN, l'expression dit bien de quoi il s'agit. Et bien sûr, dans ce volet-là de la lutte contre le FLN, eh bien, la justice est tout à fait pertinente. C'est pour ça que c'est une guerre qui a pour partie des allures de maintien de l'ordre. La lutte contre les réseaux du FLN passe par un travail d'identification des membres des réseaux, d'arrestation et par la suite, dans les divers sorts multiples que peuvent connaître les Algériens arrêtés, possiblement une traduction en justice avec des condamnations et des incarcérations. Alors, sur ce plan-là, il y a une citation du général Salan, qui était en 1957 le commandant en chef des forces françaises en Algérie, qui est tout à fait utile. Il explique qu'en Algérie, l'armée se bat sur un plan particulier, il le qualifie ainsi, où il dit que les moyens et les procédés de combat classiques, tels les chars, les avions, les mitrailleuses, sont inefficaces. En revanche, écrit-il dans cette instruction que je vous cite et qui en date du 30 avril 1957, les textes des codes, lois, décrets, arrêtés, instructions constituaient de véritables armes. Donc il y a des raisons politiques à l'intervention de la justice et il y a des raisons également, proprement militaires, enfin liées à la nature de la guerre et aux moyens dont l'armée a besoin pour lutter contre les nationalistes algériens. Alors, la législation d'exception, je l'ai évoquée, la législation fondatrice, c'est celle des pouvoirs de l'état d'urgence, qui date du 3 avril 1955, et pour ce qui concerne le volet judiciaire de la guerre, donc l'intervention de la justice et des magistrats militaires dans la guerre, cette loi fonde deux principes qui resteront valables tout au long du conflit. L'état d'urgence a très vite été aboli parce qu'en fait, Edgar Faure a dissous l'Assemblée nationale en décembre 1955 et comme nombre de textes d'exception, il était prévu que l'état d'urgence prendrait fin en cas de dissolution de l'Assemblée nationale. C'est un moyen classique, je dirais, en matière de protection des libertés publiques, hein, de décider que lorsqu'une loi d'exception est en œuvre, elle cesse de s'appliquer si l'Assemblée nationale est dissoute. Hein, c'est à peu près évident pour quelles raisons ce type de disposition existe. Donc, en tout cas, l'état d'urgence est aboli en décembre 1955, mais ensuite, les pouvoirs spéciaux, la loi des pouvoirs spéciaux qui est votée en 1956 au profit du gouvernement de Guy Mollet, permet au gouvernement de Guy Mollet, par une série de décrets, de renouveler les dispositions d'état d'urgence. Alors, les deux grands principes qui sont important quand on s'intéresse à la question des magistrats dans la guerre. Ils sont d'une part, je vous l'ai dit déjà en vous parlant de la discussion de François Mitterrand autour des tribunaux militaires, elle est d'une part de décider effectivement, in fine, que les tribunaux militaires, qui s'appelaient les TPFA à l'époque, les tribunaux permanents des forces armées, seront compétents en matière de répression des nationalistes algériens. Le système qui est mis en place est que les instructions restent aux mains des parquets civils. Si les faits reprochés aux personnes arrêtées constituent des délits, eh bien ces personnes seront jugées par les tribunaux correctionnels. En revanche, s'ils constituent des crimes au regard de la loi, ils seront traduits devant les TPFA. La raison de ce partage et qu'il y avait à ce moment-là en Algérie, comme en métropole, des cours d'assises, et lorsqu'elles jugeaient des dits français musulmans à l'époque, hein, des Algériens, en fait, elles étaient composées d'un jury constitué de citoyens, mais partiellement de citoyens français et de citoyens français musulmans. Et donc, les préventions que François Mitterrand pouvait avoir sur le fait que traduire des nationalistes algériens devant les tribunaux militaires, c'était quand même risqué de leur reconnaître une qualification militaire, ces préventions-là tombent devant un autre argument qui est que, de toute façon, les cours d'assises avec leurs jurys sont bien fragiles et que les membres des jurys risque d'être l'objet de pressions, de représailles, et donc un tribunal militaire est beaucoup plus efficace et moins sujet au risque de représailles et de pressions que les cours d'assises. Donc c'est pour ça qu'on a ce système qui est créé. Alors évidemment, ce système implique les magistrats, dans la mesure où vous avez dans les parquets les juges d'instruction qui sont saisis. Alors, ils sont saisis d'affaires multiples. Évidemment, les attentats, c'est ce que tout le monde peut avoir en tête. Mais vous avez aussi des affaires de collecte de fonds. Tout ce que je vous ai décrit, toute l'activité de l'OPA du FLN peut tomber sous le coup de la loi et faire l'objet d'instructions et donc ensuite procès en correctionnel ou procès devant les TPFA selon les cas. C'est une activité d'emblée extrêmement importante. Entre 1955 et 1960, je reviendrai après sur la question de cette limite que je mets en 1960, en permanence, il y a des milliers d'affaires liées à la guerre qui sont en instruction dans les parquets en Algérie. Je ne vous parle pas de la métropole, on pourrait revenir dans la discussion, mais pour plus de clarté, comme les situations sont différentes, je me concentre sur le cas l'Algérie. Alors, il y a des milliers d'affaires en cours d'instruction en permanence. Les tribunaux correctionnels d'un côté, les tribunaux militaires de l'autre, jugent chaque mois des centaines de personnes. Et au point qu'il faut renforcer les TPFA. Au début de la guerre, il y a 3 TPFA en Algérie, à Alger, Oran et Constantine. Et à partir de 1959, il y a une décentralisation des TPFA. Et il y en a à ce moment-là 13. Voilà. Pour vous donner une idée des affaires jugées par les TPFA, c'était des affaires qui mêlaient à des qualifications telles que assassinat, tentative ou complicité d'assassinat, détention illégale d'armes de guerre, de munitions, d'engins explosifs. Il y avait aussi l'accusation d'association de malfaiteurs qui était aussi mobilisée pour bien restituer la dimension réseau de l'organisation des nationalistes algériens. Alors, les TPFA, les tribunaux correctionnels, vous aviez des gens qui avaient ravitaillé, hébergé des maquisards, qui avaient servi de guide ou d'agent de liaison. On a souvent des audiences avec des accusés en grand nombre et des peines qui ne sont pas très importantes, qui sont liées d'ailleurs à la qualification juridique de délit, des faits qui sont reprochés. Il y a des peines d'amende, il y a des peines de moins de 18 mois de prison, parfois assorties d'un sursis, pour dissuader les accusés de persévérer dans l'aide aux nationalistes. Il y a couramment des peines de 2 à 5 ans de prison, accompagnées d'une privation des droits civiques. Devant les TPFA, la peine la plus importante, pratiquement celle, je ne dirais pas la seule, mais pratiquement tout de même dans les dires même d'avocats ou de témoins de l'époque, la seule qui importait, c'était la peine de mort. Et bien sûr, pour des crimes, on pouvait à l'époque encourir la peine de mort. Alors, la peine de mort en Algérie, elle a concerné à peu près 1500 personnes, dont 200 environ ont été exécutées. Donc, un avocat qui était au barreau d'Alger, qui s'appelait Albert Smadja, avec qui j'avais eu l'occasion d'en discuter, m'avait expliqué pourquoi il y avait ce nombre considérable de peines de mort, y compris, me disait-il, parfois dans des affaires où en métropole, on n'aurait pas infligé une peine de mort, même si elle pouvait être requise. Et bien là, au contraire, elle l'était. Quand je vous disais que c'était la seule peine qui comptait, ce que m'avait expliqué Albert Smadja, qui était avocat, c'est que tous les acteurs de ces procès savaient très bien qu'on était dans un contexte conjoncturel, c'est-à-dire que c'était une guerre et qu'elle prendrait fin un jour. Elle pouvait prendre fin pendant longtemps sans qu'on sache exactement quelle en serait l'issue, mais en tout cas, tout le monde avait conscience que c'était une conjoncture qui ne durerait pas et que, du coup, la seule peine définitive, c'est la peine de mort suivie d'une exécution. La peine, même la peine de prison à perpétuité, quand vous êtes dans un contexte de guerre dont on imagine qu'un jour ou l'autre, il va prendre fin, même si on ne sait pas dans combien de temps, tout le monde, en tout cas, c'est ce qu'Albès Madja m'avait expliqué, j'avais trouvé ça très intéressant pour comprendre cette importance des peines de mort, tout le monde sait que soit que l'Algérie reste française, soit qu'elle devienne indépendante, cela s'accompagnerait d'une grâce et que donc même des gens condamnés à la perpétuité finiraient par sortir de prison. Par conséquent, les peines de mort sont l'enjeu majeur des procès tenus devant les TPFA, procès pour des actes qualifiés de crimes. Et donc, du point de vue de Smadja, de cet avocat qui n'était pas un avocat, je dirais, type Vergès pour aller vite. On y reviendra peut-être dans la discussion des questions de défense et de stratégie de défense. En tout cas, pour lui, il m'avait expliqué que son travail essentiel était d'éviter la peine capitale et que, au contraire, les membres du tribunal militaire prononçaient des peines de mort chaque fois qu'ils le pouvaient parce que, encore une fois, dans le contexte où on était, tout le monde avait conscience que c'était la seule peine absolument définitive. Alors, ça, c'est le premier aspect, intervention des tribunaux militaires, qui donc mobilisent les magistrats, évidemment les magistrats du parquet, évidemment les magistrats des tribunaux correctionnels, mais dans les TPFA, bon, la législation a varié, mais on a en gros une présidence des TPFA qui est assurée par un magistrat civil, au sens de non militaire, rappelé ou pas sous les drapeaux suivant les périodes de la guerre. Alors, je vous ai dit par ailleurs qu'il y avait un changement en 1960. En 1960, il y a un décret, le décret du 12 février 1960, qui crée une nouvelle fonction, qui est le procureur militaire. Alors là, le système que je vous ai décrit change totalement. Les magistrats civils, les juges d'instruction civile n'interviennent plus pour les instructions. Alors le procureur militaire... Qui est ce procureur militaire ? Ce sont des jeunes magistrats rappelés sous les drapeaux. On a notamment des magistrats qui sortaient des premières promotions du Centre national des études judiciaires, c'est-à-dire l'école nationale, la future école nationale de la magistrature, qui sont mobilisés sous les drapeaux, qui se retrouvent dans les unités en tant que procureurs militaires, et ils doivent mener sur les personnes arrêtées par l'armée des enquêtes qui sont beaucoup plus rapides que les instructions. L'idée était notamment de s'affranchir de tous les recours que les avocats menaient lors des instructions. Donc il n'y a plus d'instructions, il y a une simple enquête que mène le procureur militaire qui est un jeune magistrat appelé ou rappelé sous les drapeaux et placé dans les unités. Donc enquête et non plus instruction, les avocats n'interviennent qu'à la fin de l'enquête. Et donc ça, c'est à partir de juin 60, le décret date de février, il est appliqué en juin. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus non plus d'intervention des tribunaux correctionnels. Quels que soient les actes commis, qualifiés de crimes ou de délits, les personnes arrêtées sont passibles des TPFA. Et entre 60 et 62, il y a 15 000 personnes qui sont ainsi jugées par les TPFA. Donc voilà ce premier volet, cette intervention de la justice militaire. Et il y a globalement, quand on considère le changement avec le décret du 12 février 60, un processus clairement de militarisation de la justice qui se produit au cours de la guerre. Deuxième point important et qui implique les magistrats fondamentalement de ces législations d'exception, état d'urgence puis pouvoirs spéciaux, et d'autres textes qui renouvellent ces dispositions, l'assignation à résidence. Alors, qu'est-ce que l'assignation à résidence ? Dans l'article 6 de la loi d'état d'urgence, il y a une disposition disant que toute personne dangereuse pour la sécurité et l'ordre public pourra être assignée à résidence. Lorsque cet article du projet de loi est discuté à l'époque à l'Assemblée nationale, et au Sénat aussi, d'ailleurs, il y a des parlementaires de tous bords, d'anciens résistants, qui considèrent qu'il y a là un danger parce que l'assignation à résidence peut conduire à l'ouverture de camps d'internement dans lesquels les gens assignés à résidence peuvent être détenus. Hein. Donc, ils essayent d'insister sur le fait que s'il y a assignation à résidence de personnes considérées comme dangereuses, donc de simples suspects, eh bien, cette assignation à résidence ne doit pas s'effectuer dans un camp. Ça doit être une assignation à domicile ou dans un secteur déterminé. Et donc, les députés votent un amendement qui ajoute un alinéa à cet article du projet de loi disant « En aucun cas, l'assignation à résidence ne pourra avoir pour effet la création de camps ». En réalité, dès le mois de mai 1955, les premiers camps d'internement sont ouverts sur le sol algérien et il y a progressivement, au cours de la guerre, trois types de camps d'internement qui sont aménagés. Des camps qui s'appelaient des CTT, centres de tri et de transit ou de triage et de transit, qui étaient entièrement sous responsabilité militaire et dans lesquels l'armée menait ses interrogatoires avec les moyens que l'on sait. Les CTT étaient connus pour être des lieux de pratique de la torture. Et ces camps qui étaient visités, les camps d'internement, les CTT ou les autres dont je vais parler dans un instant, étaient l'objet d'inspections de diverses commissions. Les CTT sont restés de tout l'avis des enquêteurs de l'époque de la guerre, des lieux dans lesquels il restait assez difficile de savoir concrètement ce qu'il se passait. Et il y a toujours eu dans les CTT des gens qui étaient détenus sans aucun arrêté d'assignation à résidence et donc pour lesquels la détention restait secrète et donc pour lesquels le pire pouvait arriver. Un des aspects de la mise en place des CTT, il date d'avril 1957, c'est l'idée d'essayer de suivre au plus près les arrestations effectuées par les militaires et que l'on puisse savoir quand une personne a été appréhendée, où est-ce qu'elle est détenue et par qui. Et ça, c'est quelque chose qui échoue jusqu'à la fin de la guerre. L'assignation à résidence a donné lieu par ailleurs à des camps différents sous gestion civile, des camps qu'on appelait les centres d'hébergement qui étaient gérés par les préfectures et là où étaient envoyés des gens contre lesquels, en gros, on n'avait rien dans un dossier susceptible de pouvoir les traduire en justice, mais pour lesquels on considérait qu'il y avait quand même des engagements ou des présomptions d'engagement qui impliquaient que les laisser en liberté auraient été dangereux. Donc ces centres d'hébergement avaient cette destination on a compté jusqu'à 10 000 internés à un moment précis. Les CTT, c'est beaucoup plus. On a des effectifs beaucoup plus importants, mais ils sont de toute façon sujets à discussion, puisque, encore une fois, toutes les détentions dans les CTT n'étaient pas déclarées. Et puis, il y avait un troisième type de camp qui s'appelait les CMI, les centres militaires d'internés, qui sont créés par Salan en 1958, au moment où il est commandant en chef des forces armées. Alors, son argumentation ressemble à une argumentation classique en histoire sur le traitement des prisonniers de guerre. En gros, il dit que les combattants dans les maquis opposent à l'armée française une résistance acharnée et qu'ils vont jusqu'à la mort parce qu'ils savent que s'ils sont pris, la mort est risquée, qu'il s'agisse d'une exécution, d'une mort sous interrogatoire, etc. Et donc, il dit qu'il faut créer des centres dans lesquels on va pouvoir offrir aux combattants des maquis qui ont été capturés un sort, les faisant échapper à la mort. C'est un argumentaire classique, encore une fois, dans la création de camps de prisonniers de guerre en histoire. Simplement, il dit bien que ce ne sont pas des camps de prisonniers de guerre au sens des conventions de Genève, parce que son objectif est qu'on mette dans ces centres des combattants algériens dont on imagine qu'on va pouvoir les retourner et les récupérer. Alors là, on n'est pas du tout dans les camps de prisonniers de guerre, puisque normalement le retournement des ennemis capturés ne fait pas partie des traitements légaux des prisonniers. Donc il dit lui-même que ce ne sont pas des camps de prisonniers de guerre, mais qu'il s'agit de ne pas se priver de la possibilité, quand on capture des combattants et qu'on pense possible de les récupérer, de ne pas se priver de cette possibilité. Alors les CMI sont beaucoup moins nombreux et on a au maximum quelques milliers d'Algériens qui sont internés dans les CMI, alors même que les captures au maquis sont bien plus volumineuses, si je puis dire. Alors, sur cette question politique, je voudrais revenir un temps sur les condamnations à mort, parce qu'elles sont tout à fait la question des exécutions et des grâces est tout à fait significative du rapport entre TPFA, justice militaire, et pouvoir politique. En effet, lorsque je vous ai dit qu'il y avait environ 200 exécutions en Algérie, en métropole aujourd'hui, on en est à des estimations beaucoup moins importantes. Il y aurait eu 22 exécutions en métropole, donc près de 200 en Algérie. Il y a une chronologie. Les condamnations à mort, elles commencent dès le début de la guerre. Dès novembre 1954, des premières personnes qui ont été arrêtées pour des attentats sont traduites. Pas novembre 54, après l'état d'urgence, sont traduits devant les tribunaux militaires condamnés à mort. Voilà. Et des condamnations à mort devant les TPFA, il y en a jusqu'à la fin. Le cessez-le-feu en Algérie, c'est le 19 mars. Il y a des condamnations à mort d'Algériens encore au début du mois de mars 1962. Donc les tribunaux militaires continuent de fonctionner et au fur et à mesure que l'armée se saisit de membres de l'OPA, qu'ils sont traduits devant les TPFA, condamnés à mort. Par contre, l'exécution, la décision de grâce ou d'exécution, là, on a une chronologie tout à fait différente, parce que c'est le moment où le pouvoir politique intervient et régule la répression des tribunaux pour l'adapter au contexte politique. Je m'explique. Condamnation à mort dès l'application de l'état d'urgence, dès 1955. Premières exécutions, juin 1956. Pourquoi ? Parce qu'on est là sous le gouvernement de Guy Mollet et l'opinion réclame des exécutions, en particulier en Algérie. Si vous connaissez la fameuse journée des tomates, le 6 février 1956, quand Guy Mollet se rend à Alger, ça fait partie des revendications des représentants des Français d'Algérie mobilisés qui manifestent contre Guy Mollet en février 1956, exécuter les condamnés à mort. Mais, et cette fois-ci, dans le gouvernement Guy Mollet, François Mitterrand se retrouve ministre de la Justice. Mais au gouvernement de Guy Mollet, on attend, on a commencé, il y a des tentatives de contact avec le FLN et on attend de voir ce que ces contacts vont donner. Et en juin 1956, il s'avère que ces contacts ne donnent rien du tout et les premières exécutions de condamnés à mort, c'est juin 1956. Le pic des exécutions, c'est l'année 1957, qui correspond dans la chronologie générale de la guerre à une sorte d'acmé dans l'affrontement franco-algérien. C'est le moment, si vous la connaissez, de la fameuse bataille d'Alger, mais pas seulement. Et donc, pendant l'année 1957, il y a, dans les 90 exécutions, il y a une pause après le 13 mai 1958, puisque René Coty est toujours président de la République, mais enfin, on est dans une transition de régime. Donc, sa légitimité à se prononcer est quand même remise en cause. Il y a quand même 3 exécutions au mois d'août, mais enfin, il y a une pause. Et en janvier 1959, lorsque De Gaulle devient le premier président de la Ve République, il prend une mesure de grâce collective des condamnés à mort algériens, ce qui d'ailleurs contribue à faire naître déjà des tensions entre ceux qui l'ont porté au pouvoir en estimant qu'il allait défendre l'Algérie française, et puis il prend cette mesure parmi d'autres qui est une mesure d'apaisement envers les Algériens. Et les exécutions néanmoins reprennent ensuite et après leur chronologie suit celle des contacts, des négociations entre le gouvernement français d'un côté et de l'autre côté le GPRA, puisque le Front de Libération Nationale a formé en 1958 un GPRA, gouvernement provisoire de la République algérienne. Donc les négociations franco-algériennes se déroulent de 60 à 62. Et dans le contexte de ces négociations, le GPRA, à un moment donné, dit clairement qu'il n'y aura pas de négociations si les exécutions continuent. Donc la dernière exécution en Algérie, elle a lieu en décembre 60, en métropole en janvier 61. Donc c'est très intéressant, je trouve, cet agencement, si je puis dire, entre des tribunaux militaires qui continuent à condamner à mort et qui expriment une volonté de continuité de répression du nationalisme algérien d'un côté, et de l'autre, une adaptation politique par le levier de la grâce ou de la décision d'exécution, une adaptation de la répression au contexte politique. Voilà. Et alors, du coup, à partir du moment où il n'y a plus d'exécution au sein du commandement à Alger, les revendications d'exécution se multiplient et il y a même des tentatives pour essayer d'obtenir une réforme du droit de grâce et le faire basculer, si je puis dire, de la présidence de la République au sein du commandement. Si je résume, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait un processus de militarisation de la justice. Ce que l'on voit au sein du commandement, c'est qu'il y a un idéal militaire de la justice qui reste un peu celui des conseils de guerre de la Première Guerre mondiale. Une justice qui, pour être efficace, doit être rapide et expéditive. Et donc, ces grâces de condamnés à mort, c'est vraiment un conflit, un sujet de conflit en interne, à l'intérieur de l'État même, hein, et en particulier entre De Gaulle et le commandement. Alors, les magistrats, je crois que je dispose encore d'un quart d'heure. Alors, les magistrats, eh bien, comment réagissent-ils dans ces situations ? Le fait est qu'elle les a évidemment très largement impliqués. Je parle là des magistrats en poste en Algérie. Hein. Je vous ai dit que je laissais de côté la métropole, on pourra en discuter. Alors, en Algérie, à l'époque, il y avait une magistrature d'Algérie, mais qui ne constituait pas un corps séparé de la magistrature métropolitaine. Ce n'était pas une magistrature d'outre-mer. On pouvait muter facilement d'Algérie en métropole. Néanmoins, bien évidemment, la majorité des magistrats qui étaient en poste en Algérie étaient issus de familles de Français d'Algérie, hein, qui, dans la colonie, occupaient les postes, en particulier les emplois publics. Hein. Dans la citoyenneté différenciée des Algériens à la période coloniale, il y avait notamment, jusqu'en 1944, un accès différencié aux emplois publics. Et jusqu'en 1944, les Français musulmans, comme on appelait les Algériens, ne pouvaient pas postuler, pour le peu qui avaient fait des études, à des postes de magistrats. C'est qu'à partir de 1944 qu'ils pouvaient. Donc, en Algérie, on a majoritairement dans la justice pénale des magistrats qui sont issus de familles françaises d'Algérie, pour qui évidemment l'Algérie est l'unique patrie concevable, et qui se trouvent jugés partis, bien sûr, sur un plan personnel lorsqu'ils traitent de ces affaires. Il y a aussi des magistrats venus de métropole. J'en avais rencontré certains quand je faisais ma thèse dans les années 90. Maintenant, les témoins que j'ai rencontrés à l'époque sont tous décédés. Ils m'avaient expliqué qu'en fait, c'était plus facile d'intégrer la magistrature en Algérie que la magistrature en métropole, parce qu'en métropole, il y avait beaucoup plus de candidats à l'entrée dans la magistrature, alors qu'en Algérie, au contraire, il y avait toujours, notamment dans les justices de paix, un déficit de personnel. Donc, un jeune licencié en droit qui échoue à l'examen d'entrée dans la magistrature en métropole pouvait, avec sa licence en droit sur titre, devenir juge de paix suppléant en Algérie, ensuite passer juge de paix titulaire et continuer sa carrière ainsi. Il faut savoir aussi, j'espère que ces précisions juridiques ne vous seront pas inutiles, que je vous ai dit que je vous ai parlé de la magistrature pénale, là je vous parle des juges de paix, alors vous allez me dire « Ah mais les juges de paix, ils ne sont compétents qu'en matière civile », sauf qu'en Algérie, comme le quadrillage administratif était plutôt, il y avait un sous-encadrement, hein, eh bien les juges de paix souvent instruisaient en matière pénale par délégation des juges d'instruction. Donc les juges de paix, même si en théorie, ils ne sont compétents qu'en matière civile. En fait, en Algérie, ils agissaient aussi en matière pénale. Donc, tous ces magistrats ont été, évidemment, investis dans ces affaires judiciaires. Concernant la présidence des TPFA, pour vous donner un nombre, en novembre 1960, il y a 47 magistrats de l'ordre civil qui sont occupés à la présidence des 13 tribunaux militaires dont je vous ai parlé, parce qu'il y a les titulaires et les suppléants. Concernant les procureurs militaires, de juin 60 à la fin de la guerre, il y a 231 magistrats et 31 auditeurs de justice, c'est-à-dire des jeunes qui étaient en formation au Centre national d'études judiciaires fondé en 59, je crois, 58-59, hein, l'ancêtre de l'ENM. Donc, au total, 262 magistrats qui ont exercé cette fonction de procureur militaire. Donc le système fonctionne et ces lois d'exception sont tout à fait appliquées. Et lorsque je m'interrogeais pour ma part, et j'interrogeais des magistrats à l'époque sur leur perception de cette loi d'exception, pourquoi, comment, ils mettaient en évidence pour ceux qui étaient originaires d'Algérie qu'il y avait de toute façon pour eux une incapacité à se projeter ailleurs qu'en terre algérienne, parce que c'est là qu'ils étaient nés, c'est là que leurs parents, éventuellement leurs grands-parents, étaient enterrés, donc il n'y avait pas pour eux la possibilité de s'ouvrir une autre perspective, et donc le départ de l'Algérie était absolument impensable, et donc il n'y avait pas évidemment je dis ça, c'est une généralité, hein, mais d'interrogation particulière ou d'examen de conscience particulier sur le fait d'instruire ses affaires, et notamment en matière de torture, parce que j'interrogeais les magistrats lorsque je les rencontrais sur que faisiez-vous lorsqu'un inculpé vous disait qu'il avait été torturé. Et tous me disaient que au mieux, il commettait un médecin légiste qui constatait éventuellement des traces, mais pas toujours, parce que d'abord, c'était des dires, il n'avait pas toujours de preuves, et puis en plus, les pratiques de torture ne laissent pas toujours de traces, et puis parfois, les gens arrivent devant le juge longtemps après, il n'y a plus de traces, ou bien parfois, le médecin légiste voit des traces, mais il dit qu'il ne peut vraiment pas certifier que c'est le résultat de la torture, donc ils expliquent qu'en gros, ils commettaient un médecin légiste qui faisait un certificat et qui le versait dans le dossier, mais que ça n'entravait pas leur instruction des affaires, sachant que, me disait-il par ailleurs, il y avait aussi de toute façon des éléments dans les dossiers pour affirmer la culpabilité des personnes qui leur étaient déférées. Concernant les métropolitains, il n'y a pas de ligne systématique à faire, hein, même si, enfin, entre eux, des magistrats français d'Algérie qui auraient fait fonctionner le système sans état d'âme, pardonnez-moi, je vais vite, hein, mes mots sont un peu peut-être un peu trop vifs là, mais et d'un autre, des métropolitains qui éventuellement auraient eu, eux, des états d'âme, parce qu'en fait, ce que me racontaient les magistrats de métropole que j'ai rencontrés et qui avaient été amenés à être affectés, à débuter leur carrière en Algérie, c'est qu'une fois sur place, ils commençaient, pour certains, ils faisaient leur vie sur place, ils étaient dans une sociabilité locale, certains épousaient des jeunes femmes issues de familles françaises d'Algérie, et donc finalement, ils n'avaient pas de différence dans leur comportement, si ce n'est que pour eux, la perspective d'une éventuelle indépendance avec l'idée d'aller en métropole, pour eux, c'est un retour chez eux, alors qu'évidemment, pour les Français d'Algérie, ça n'en est pas du tout un. Alors, sur cette question de la torture, il y a un procureur général qui s'est distingué, qui s'appelait Jean Reliquet. Sur ces rapports entre justice et politique, le personnage central, c'est le procureur général d'Alger. Au début, en 1954, l'Algérie ne constitue qu'une cour d'appel. En 1956, on en met trois en place, Oran, Alger, Constantine. Mais le procureur général d'Alger est toujours le chef de la justice en Algérie. Quand la guerre débute, le procureur général d'Alger s'appelle Susini. Et lorsqu'il y a des premières enquêtes autour de la pratique de la torture dès 1955, avec notamment Jean Mairet, qui était le chef de la Sûreté nationale, il revient assez étonné des propos de Jean-Jacques Susini, qui minore l'importance de la pratique de la torture et ne lui fait pas part de sa volonté particulière à instruire des plaintes quand elles sont déposées, parce que par ailleurs, des gens déposaient des plaintes pour faits de torture. Jean Reliquet, il est nommé, lui, en 1956 par François Mitterrand, et l'idée est vraiment de reprendre en main la justice d'Algérie. Jean Reliquet est une très grande figure de la magistrature à l'époque. Il présidait l'Union fédérale des magistrats, qui était la grande organisation des magistrats à cette époque. Et Jean Reliquet est un acteur historique particulièrement intéressant. C'est lui qui est à Alger pendant la dite bataille d'Alger. Et il a une position extrêmement complexe à tenir parce qu'il est d'un côté absolument convaincu de la nécessité de lutter contre les nationalistes algériens et tous ceux qui les soutiennent. Ça inclut aussi des communistes, des syndicalistes, des chrétiens progressistes. Hein. On parle du FLN, mais en réalité, dans le combat pour l'indépendance, il y avait divers acteurs engagés. Il n'a aucun problème avec l'idée de la lutte contre les indépendantistes algériens et la nécessité de les arrêter, de les condamner. En revanche, c'est quelqu'un qui dénonce la torture, qui ne la dénonce pas publiquement, comme Paul Tedjène, qui était à l'époque secrétaire général de la préfecture de police d'Alger, sur lequel on pourra revenir dans la discussion, mais en interne, c'est quelqu'un qui, par exemple, convoque le général Massu, hein, et lui demande des comptes, et il demande une sorte de régulation des actes commis par les militaires. Et alors Jean Reliquet est rappelé d'Alger en 58 par Michel Debré, quand Michel Debré arrive au ministère de la Justice après le 13 mai. Et en fait, toute cette période de 57, il est tout à fait ostracisé en fait à Alger, que ce soit par le ministre résident en Algérie, Robert Lacoste, ou par le commandement, parce qu'on le considère comme quelqu'un qui fait le jeu de l'ennemi, alors même que publiquement, c'est un serviteur de l'État, ce n'est pas quelqu'un qui s'exprime publiquement. À la suite de Jean Reliquet, il y a le procureur général Roca, qui est nommé en remplacement, qui est le fils d'un collaborateur de Michel Debré. Et Roca est remplacé après la semaine des barricades par Robert Schmelk, qui est envoyé par De Gaulle avec, selon ce que j'ai pu lire dans la bibliographie, je n'ai pas rencontré Robert Schmelk, une petite phrase sibylline lui disant qu'étant de l'Est de la France, il connaît les situations évolutives et donc on imagine qu'il aura le tact de suivre les évolutions de la souveraineté sur l'Algérie. Voilà. Et Robert Schmelk reste jusqu'à la fin du conflit en poste. Il est là au moment du putsch, notamment. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette conférence, que je ne conçois que comme un propos liminaire, tout à fait soumis à vos questions. Il y a quantité de thématiques que j'aurais pu aborder mais que j'ai laissées de côté pour ne pas vous assommer. Et donc je suis ouvert à toutes vos questions, y compris celles éventuellement qui ne porteraient pas sur la justice, puisque depuis le temps j'ai développé d'autres travaux et donc je me déplace toujours bien volontiers à la rencontre des personnes qui ne sont pas toujours dans les cercles de la recherche, et je répondrai à vos remarques et interrogations bien volontiers.
Merci beaucoup, Sylvie Thénault.